pour gagner. Entre les mains, on a toutes les cartes en main, on a toute la stratégie en main. Notre seul ennemi, c'est nous-mêmes.
Même si c'est une stratégie d'affinité, ça reste une stratégie, ça t'as pas compris.
Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie.
Au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Qu'un.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast hors série consacré à la version américaine de Koh-Lanta intitulée Survivor. Pourquoi allons-nous faire ce podcast? Tout simplement pour vous faire découvrir Survivor, pour peut-être vous initier à Survivor, ou pour vous faire aimer tout simplement Survivor, pour peut-être développer l'esprit critique de fans de jeux de survie tels que Koh-Lanta. Avec moi, trois intervenants, deux que vous connaissez, puisqu'ils interviennent régulièrement dans les podcasts de Koh-Lanta sur ADF. Il s'agit de Damien et de Gino. Bonjour messieurs.
Salut le Plantcaster, ça va?
Bah tranquille. Et donc Gino aussi avec nous.
Salut Plantcaster, salut tout le monde. Et puis une petite pensée pour Frizz qui devait être avec nous aujourd'hui, qui a malheureusement eu un empêchement.
Eh oui, putain de camion, comme il dirait. Et... et avec nous également, il s'agit d'une personne qui est plus fan de Survivor que de Koh-Lanta. Et pourquoi donc? Parce qu'il est nord-américain, officiellement il vient du Québec. Il est administrateur d'ADF et ça va être son premier épisode en tant qu'intervenant. Je vous demande d'accueillir Ornithomax. Salut Ornithomax.
Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. J'ai vraiment hâte de parler de Survivor avec vous. C'est une des passions que j'ai depuis très 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 longtemps, donc bien content d'être là.
Et on est aussi tout à fait content que tu aies accepté notre invitation, Max. Alors, pour vous expliquer, on va vous initier à Survivor. On va pas chercher à imposer un culte de Survivor par rapport à Koh-Lanta ou l'inverse. On va vraiment vous faire découvrir ce jeu qu'est Survivor. Et pour commencer, on va tout simplement vous expliquer, vous faire la présentation, le sommaire un petit peu de Survivor, l'historique du concept Survivor et de son impact aux États-Unis. Et cette partie vous est assurée par Damien. Damien, c'est à toi.
Alors c'est parti. Alors ce qui est très intéressant donc, c'est que Survivor, c'est l'idée d'un homme. C'est un Anglais, bizarrement, qui s'appelle Charlie Parsons. Il est né au début des années 60 et voit une vie un petit peu normale, voilà, classe moyenne anglaise, et on l'envoie à 17 ans dans un pensionnat assez reculé de l'Est anglais dans le Sussex, si mes souvenirs sont exacts. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ce genre de pensionnat qui était un peu réservé à la future élite de l'Angleterre, c'était des endroits extrêmement reculés où c'était vraiment la loi du plus fort, quoi. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote, il y a pas mal de gens qui étaient dans ce genre de pensionnat à l'époque, qui, par exemple, un journaliste anglais, je me rappelle plus le nom, mais qui avait été otage pendant la crise du Liban à la fin des années 80, qui a clairement dit que pour endurer sa captivité, il s'était servi de son expérience en pensionnat, de l'isolement, du fait de pas lâcher, pour pouvoir tenir moralement et psychologiquement. C'est dire à quel point les conditions étaient terribles. Un des profs de Charlie Parsons, d'ailleurs, avait dit « En gros, c'est une des épreuves en gros, qui forge le caractère et qui vous forge un bonhomme. » Bon, c'est peut-être un petit peu trop bourrin, mais voilà, c'est comme ça que c'était. Et deuxièmement, c'est qu'à l'époque, Charlie Parsons lisait énormément de romans d'aventure, dont un qui sera souvent cité d'ailleurs dans les premières saisons de Survivor, et qui s'appelle « Sa Majesté des Mouches ». Donc un roman qui a été écrit, si je me rappelle bien, dans les années 50. Donc le pitch du roman, c'est quoi? C'est une bande de jeunes hommes, de jeunes garçons, même puisqu'ils ont 12-13 ans, qui sont sur une île déserte suite à un crash d'avion. Et petit à petit, on va dire que sous le vernis un petit peu de la bonne société, ils commencent à se craquer et ils commencent. Enfin, les gens les plus raisonnables sont mis un peu de côté. Il y en a un qui crée un culte. Ils finissent même par s'assassiner entre eux et tout. Enfin, c'est un roman comme ça qui est assez qui est assez dur. Et qui a été adapté en film plusieurs fois, notamment au début des années 90. C'est de là que Charlie Parsons, en gros, a trouvé un peu le principe de base, c'est-à-dire ce jeu social où c'est qu'ils appellent Survival of the Fittest. C'est en gros, en français, plus ou moins, c'est la survie du plus malin, du plus à même à endurer ce genre de conditions. Donc après son pensionnat, bon, il va à la fac, il fait une fac de lettres à Oxford. Donc il fait des petits boulots un peu pour la télé, bon, en fait, il est un petit peu arrogant, donc voilà, ça passe pas, donc il apprend un petit peu les ficelles du métier. Et déjà, première chose, en 87-88, lors d'une émission un peu locale, il propose un petit concept, c'est-à-dire pendant une semaine, il envoie 4 personnes, c'est-à-dire un ancien tolard, un joueur de tennis, un animateur télé et un joueur de poker, je crois, qui les amène tous les quatre sur une île déserte pendant une semaine et on les voit comment interagir. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le tout début de Survivor. Au début des années 90, il est recruté par Channel 4. Alors pour les gens qui ne connaissent pas trop, donc Channel 4 en Angleterre, on va dire que c'est un peu l'équivalent de Canal+, voilà, de ce qu'était Canal+, d'ailleurs dans les années 90, c'est-à-dire une chaîne qui était plutôt portée sur l'innovation, sur le fait de proposer des choses qui sortaient un peu du lot. Et il propose une émission qui s'appelle The World, qui plaît énormément aux jeunes. Donc on est à la fin un peu de l'ère Thatcher, donc les jeunes se font chier littéralement, et ils ont soif de passer à la télé. Et surtout, il y a une capsule à la fin qui permet aux gens qui écrivent à la chaîne de pouvoir passer à la télé pour faire des trucs un petit peu extrêmes, des trucs à la con, genre, je sais pas, genre lécher les pieds de quelqu'un, ou rouler une pelle à un vieux, ou enfin... Vu d'aujourd'hui, maintenant, ça paraît complètement débile, mais à l'époque, justement, ça avait une fonction cathartique pour cette jeunesse-là, et c'est une émission qui a cartonné. Il a fait une autre émission, une matinale un petit peu spéciale, qui est un vrai carton aussi. Et à partir de 92, il commence à trouver donc, le concept de ce qu'on appelle donc, Survivor, ou qu'on connaît aussi comme Koh-Lanta. C'est-à-dire un jeu qui serait monté comme une série télé, c'est-à-dire avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, avec une élimination à la fin, et surtout un jeu vraiment social qui encapsulerait les conditions sociales qu'il a un petit peu vécues lors du pensionnat, c'est-à-dire être coupé de toute ta famille, coupé de tous tes liens, être avec une bande d'inconnus et voir comment tu te débrouilles. Et la comparaison avec Sa Majesté des Mouches où chaque personne est éliminée. Sauf que donc il bosse hyper fort son dossier. Donc, au départ, il voulait pas le proposer aux chaînes anglaises parce que les chaînes anglaises, en gros, elles aiment bien retoucher un petit peu le concept et tout. Et lui, il voulait pas ça. C'était mon truc ou rien. Donc il fait trois énormes dossiers avec dedans pour amuser un petit peu les gens des chaînes une fausse une du Times avec marqué Survivor, en gros le phénomène de l'année, voilà. Et bon, ça, on en reparlera après. Mais voilà, il fait donc trois gros dossiers comme ça, mais après, on va dire, pour faire une telle émission, à l'époque, c'était quand même quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, normalement, pour faire une émission télé, on tourne un pilote et on voit comment ça se fait. Sauf que tourner un pilote sur une île un petit peu... Enfin, que ce soit sur une plage isolée, comme par exemple à Bornéo lors de la première saison, rameuter des candidats, les caméramans, le catering et tout, ça coûte très, très, très cher. Et du coup, les chaînes sont un petit peu frileuses. Il a eu des contacts avec Disney, notamment, qui l'ont un petit peu aidé à peaufiner son truc, et ça s'est pas fait. Donc, ça a surtout été aux États-Unis. Enfin, une fois que le concept était bien fait, donc il commence à aller à un salon à Cannes qui s'appelle le MIT TV, qui est le salon un petit peu où des professionnels de la télé vont vendre des concepts aux chaînes. Et il va vendre son concept à la chaîne publique suédoise SVT. En 1997, on trouve Expédition Robinson, qui est la toute première version de Koh-Lanta. Sauf que, je pense que les fans un peu hardcore le savent, c'est que si vous le saviez pas, enfin, je pense que vous le savez quand même, c'est que le tout premier éliminé d'Expédition Robinson n'a pas supporté et s'est donné la mort quelques semaines après le tournage. Voilà. Donc ça fait une énorme polémique. L'émission a quand même été diffusée. Aujourd'hui, ça paraîtrait complètement inconcevable. Je veux dire, il y a eu Drop il y a 5 ans et donc l'émission a été tout bonnement supprimée. Mais là, donc, ils l'ont diffusée quand même et ça a été un carton. Et ça a été un carton, d'ailleurs, en Suède, le vainqueur est toujours une célébrité 23 ans après. Voilà, donc ça a été vraiment un phénomène de société là-bas. En ce qui concerne c'était en Suède, ensuite ça a un petit peu essaimé en Norvège, en Finlande et au Danemark, donc les pays scandinaves. Et la même chose, ça cartonne, ça devient... en Norvège, par exemple, donc le vainqueur qui a été considéré comme un gros stratège, un vilain, il l'appelait, j'ai pas le terme norvégien, mais il l'appelait le trou du cul local. Et après, il est devenu l'animateur de la saison. Et d'ailleurs, il a fait un épisode où il était complètement nu. Voilà. Donc c'est toujours le petit folklore un petit peu sympa. Et d'ailleurs, la Norvège a fait une saison qui était dans des conditions de grand froid. Chaque pays explore un petit peu ce concept. Et ensuite, en 99, donc Mark Burnett de CBS commence à avoir des petites tractations comme ça. Donc Charlie Parsons crée sa propre boîte de production qui s'appelle Castaway Production, qui est dédiée uniquement à Survivor, et commence un petit peu à faire ça aux États-Unis. Et donc la première saison de Survivor aux États-Unis, qui est en avril 2000, qui s'appelle Survivor Borneo, donc qui se déroule lors de l'île indonésienne du même nom. Et là, aux États-Unis, ça devient voilà, un phénomène de société à peu près comparable à ce qu'on a connu en France un an plus tard avec le Loft. C'est-à-dire que les candidats ensuite ont tourné dans des pubs, apparemment tout le monde parlait de ça, genre est-ce que telle alliance va durer et tout. Bon, je ne dirai pas qui pour vous laisser la surprise. Mais c'était devenu vraiment le truc vraiment à voir. Ça a été l'événement de l'an 2000. Et d'ailleurs, donc je parlais de la fausse une du Times tout à l'heure. Eh bien, en fait, en mai 2000, le Times a titré sur une image de Survivor comme en gros la fausse une était prémonitoire. Voilà. Et donc c'est comme ça que le concept est arrivé. Et surtout, moi, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que à la base, donc pour Charlie Parsons, donc cet anglais, il voulait créer vraiment cette émission où l'aspect social, où l'aspect survie, c'était surtout la survie à l'autre dans un milieu difficile. Voilà, pour lui, c'était très important en gros de faire ça. Et pour la petite anecdote, Charlie Parsons est anglais, mais Survivor n'a jamais marché en Angleterre. Ils ont fait 2 saisons qui ont très très peu marché. J'ai entendu parler que apparemment il se pourrait que ITV, une chaîne anglaise, relance le truc, mais voilà, ils avaient un petit peu trifouillé le concept, il n'y avait que 12 personnes, ça durait 2 semaines, enfin c'était un peu bizarre. Donc un proverbe qui dit nul n'est prophète en son pays, bah Charlie Parsons, voilà, c'est qu'il a fallu qu'il aille aux États-Unis pour que le concept se diffuse. Et il n'a pas marché partout. Je sais qu'au Portugal, par exemple, il y a eu une seule saison. Il y a des pays qui n'aiment pas trop ce genre de concept, d'autres oui. Donc, pour moi, ça me semblait important un petit peu de revenir là-dessus, revenir un petit peu sur la base de ça pour bien comprendre ce qu'est Survivor et ensuite comment ça a influencé Koh-Lanta. Et dernière chose aussi, j'ai beaucoup de dernières choses, c'est que juste après Survivor, en gros, aux États-Unis, Endemol, donc qui était un truc un peu différent, a proposé Big Brother. Voilà, donc l'équivalent du Loft chez nous. Sauf que Survivor a bien marché, Big Brother a marché, mais pas trop. Et du coup, pour la saison d'après, ils ont voulu ajouter un peu de Survivor dans Big Brother, c'est-à-dire que les éliminations ne se faisaient plus, on va dire, selon les votes du public, mais c'était les gens qui s'éliminent entre eux. Et là, ça a donné un jeu de stratégie dans un Loft qui... au dire de beaucoup de fans, et absolument extraordinaire. Et en France, ça a été un peu l'inverse, c'est-à-dire que le Loft a cartonné, Koh-Lanta a marché, mais bon, pas trop quand même. Donc, ils ont essayé d'apporter quelque chose, un storytelling un petit peu différent. Voilà ce que j'avais à dire un peu à ce sujet.
Merci Damien pour nous avoir présenté la présentation de l'arrivée de Survivor sur les chaînes de télévision du monde entier. Et tu nous as expliqué que ça a été un véritable phénomène de société aux États-Unis. Et en France, le programme est évidemment un peu moins connu, puisqu'il y a Koh-Lanta qui est le programme de référence. Mais il y a des petits fans, hein, comme nous, qui essayons de vendre un petit peu le programme à tous. Et la question à laquelle on essaye de répondre le mieux, c'est pourquoi regarder Survivor ? C'est une question très simple, mais qui possède des réponses très complexes et qui nécessite beaucoup de temps afin d'y répondre. Ce travail-là, c'est Gino qui l'a fait, et après quelques recherches, après s'être posé quelques questions, après avoir trouvé des points rigoureux, Gino va nous vendre maintenant pourquoi est-ce qu'il faut regarder Survivor. Gino, c'est à toi.
Très bien. Alors, je vais subdiviser le raisonnement autour de pourquoi regarder Survivor en 4 parties. Alors, le premier des 4 points que je veux aborder, c'est le rythme et le style de réalisation du show. Survivor, c'est sauf pour la première et la finale, qui sont en général plus longues, et quelques rares cas de double épisode, toujours 42 minutes une fois qu'on a retiré les publicités. Alors, la stabilité de ce format, ça s'explique par le fait que les cases horaires sont beaucoup plus strictes à la télévision aux États-Unis qu'en France. Où en France, l'heure de début d'un épisode et sa durée, ça varie au bon vouloir du diffuseur. Là-bas, c'est une heure, c'est une heure. Et une heure en prime time sur les chaînes principales, c'est 42 minutes de programme et 18 minutes de pub, d'où cette durée de 42 minutes qui est, on va le dire, encore plus immuable que les règles. Le plus souvent, on a 2 épreuves et un conseil à caser sur une aussi courte durée. Du coup, il n'y a que très très peu de place pour les temps morts. C'est quelque chose qui rend l'épisode très intense, on n'a que peu de temps pour s'ennuyer, car il n'y a pas besoin de remplissage et car on évite au maximum les redites pour sauver un précieux temps d'antenne. Par exemple, c'est pour ça que sur les saisons de Survivor récentes, on n'a pas une grande scène quand quelqu'un démarre le feu pour la première fois. Parce qu'on l'a déjà vu sur les saisons d'avant, c'est une redite, donc ça prend inutilement du temps d'antenne. Une autre caractéristique forte du programme, c'est qu'il n'y a pas de voix-off dans Survivor. La réalisation fait en sorte que l'action se suffise à elle-même, et s'il y a besoin d'une narration, on prend le confessionnal d'un candidat pour le mettre en parallèle aux images. C'est quelque chose qui rend le show beaucoup plus immersif, parce qu'on a l'impression de le voir à travers les yeux des candidats, et non à travers ceux du narrateur. Et c'est ce qui donne un sentiment de proximité et d'authenticité du jeu qui est très appréciable. Attention, je dis bien que c'est un sentiment, je ne dis pas que Survivor est plus authentique que les autres jeux, il y a forcément une influence du montage, mais je tenais quand même à relayer ce sentiment. Une autre chose intéressante avec ce style, et qui parlera aux amateurs de séries télé qui, je n'en doute pas, sont très nombreux à nous écouter, c'est que c'est un format qui passe hyper bien en binge-watching. La durée est proche de celle des séries télé états-uniennes, pour les raisons que j'ai déjà citées. C'est une chose qui aide déjà psychologiquement à rapprocher les deux expériences. Le côté immersif donne encore plus envie de voir la suite car on s'attache encore plus au candidat. Et le rythme effréné fait qu'il y a assez peu de lassitude en cours de saison. Donc, il y a beaucoup plus de tentation de passer très vite à la suite. Le deuxième des quatre grands avantages de Survivor, c'est l'emphase sur la stratégie. Parce que Survivor, c'est un jeu qui met énormément d'emphase sur la stratégie. Ce qu'on voit du camp, bien entendu si on exclut les toutes premières saisons qui sont un univers à part, c'est grosso modo un tiers de moments établissant un personnage ou ayant un but comique et deux tiers de stratégie. Le temps d'antenne n'est pas le seul paramètre qui fait que la stratégie est mise en valeur. Dans le montage de Survivor, le fait d'être un bon stratège donne beaucoup de crédit à quelqu'un, et c'est la principale compétence que l'on veut attribuer à un gagnant, a fortiori dans les saisons les plus récentes. Et on peut également souligner, toujours en parlant de la mise à valeur de la stratégie, le fait que l'animateur, Jeff Probst, n'a jamais caché son affection pour ce qu'il appelle les big moves, c'est-à-dire les coups stratégiques très voyants, très spectaculaires, qui font vraiment le sel de Survivor. Et c'est cette emphase qui fait que dans la mythologie de Survivor, ce qui est valorisé avant toute chose, c'est la stratégie. Du coup, par défaut, la plupart des candidats voudront jouer stratégique, puisque c'est l'exemple qu'on leur a donné. Et c'est aussi ce qui fait que beaucoup de candidats vont vouloir jouer strat à tout prix, et que les piégés ne seront au final que rarement rancuniers, ce qui augmente encore plus l'influence de la stratégie dans le vote du jury. Le mérite de cette approche, c'est que non seulement les amateurs de jeux stratégiques se délecteront de l'intelligence et de la finesse de certains coups magistralement exécutés, mais aussi que le téléspectateur lambda pourra se réjouir d'assister à un jeu plein de suspense. En effet, la mise en avant de la stratégie fait que les candidats se refusent de moins en moins de choses, ce qui ouvre énormément d'options dans le jeu, puisqu'on n'hésite pas à se débarrasser d'un allié encombrant s'il n'assure pas ses arrières. Et la recherche du big move fait que les joueurs n'hésitent pas à le faire par surprise, pour que le coup ait l'air encore plus spectaculaire aux yeux du jury. Et enfin, cette emphase a mené à la multiplication d'avantages utilisés dans le jeu. Outre l'idol, qui est la version Survivor de notre collier d'immunité, on peut évoquer le vol de vote et même un avantage permettant d'annuler une idol. Ce sont des choses qui rendent encore plus probables des retournements de situation, avec des joueurs qui savent bien les jouer, mais aussi d'autres qui savent bien comment réduire les chances que ces avantages leur nuisent. Ce qui fait qu'on a toujours une chasse entre ceux qui ont les avantages et ceux qui veulent les éviter, ce qui rend le jeu stratégique bien plus palpitant et bien plus générateur de suspense. Un autre point fort de Survivor, dont on parle un peu moins, c'est la fan culture. La fan culture, c'est un aspect très plaisant de Survivor, que vous n'apprendrez pas au premier visionnage, ça, je vais le reconnaître, mais qui peut être excellent si vous vous laissez charmer sur une approche sur plusieurs saisons. C'est qu'il y a une énorme fanbase autour de Survivor. C'est une culture qui se voit, on va commencer par les podcasts, forcément, on va un peu plaider pour notre paroisse. Il y a plusieurs podcasts sur Survivor, la référence d'entre eux, Rob as a Podcast, est animé par un candidat de la saison 6 lui-même et qui bénéficie de la venue de plusieurs nombreux candidats passés comme présents. Et ce podcast, il est là depuis 2010, alors que le jeu n'a été lancé qu'un an plus tôt qu'en France. Je dois aussi parler du Funny 115. Le Funny 115, c'est un site répertoriant les 5-15 moments les plus drôles des saisons 1 à 11, qui a connu deux déclinaisons supplémentaires pour les saisons 12 à 20, puis 21 à 30. Et outre les sympathiques tranches d'humour qui ne manqueront pas de délecter les fans, ce site a une écriture qui met l'emphase sur l'importance du jeu social dans Survivor. Et c'est quelque chose qui offre une perspective très intéressante sur le jeu, puisque le jeu social, c'est parmi les 4 S du format Survivor, survie, social, stratégie, sport. Le social, c'est sûrement le S le plus important, mais c'est sûrement celui qu'on a le moins de facilité à montrer. Donc, je recommande vraiment de jeter un petit œil sur ce site-là si jamais vous le laissez bercer par Survivor. Voilà. Je pourrais également parler de la pratique intensive de Logic. C'est un mot valise entre edit, qui veut dire montage, et logic, logique. Dans une partie de la fanbase, le but de Logic, c'est de décortiquer le montage dans le but de situer les histoires les plus intéressantes à suivre et de déterminer les principaux prétendants à la victoire. Si jamais on veut rapporter ça à Koh-Lanta, bon, je sais qu'il faut un peu éviter, vu que ça fera... Plancaster en parlera plus tard, mais bon, je vais le faire quand même. Sur ADEF, on a observé le fait que Nawel était la seule membre de l'alliance majoritaire à avoir un montage positif. Du coup, on avait bien compris qu'elle avait de bonnes chances de gagner. Et c'est tout à fait logique qu'un producteur fasse ça, parce qu'aucun producteur ne veut de gagnant dont on ne comprend pas la victoire. L'avantage de Logic, c'est qu'en décelant ces logiques de la production dans le jeu, on comprend les biais du montage, et donc on apprend à ne pas prendre tout ce qui est dit par le montage pour argent comptant. Un aspect crucial de l'étendue de la fan culture, c'est que les fans hardcore étant nombreux, ils ont une voix qui s'entend autant, sinon même plus, que celle des fans plus distancés du programme sur les réseaux sociaux. C'est une chose qui fait que la production n'hésite pas à les écouter pour infléchir le jeu, non pas en cours de saison évidemment, mais pour les saisons ultérieures, et également le fait que beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux sont à l'écoute de leur discours fait que la pensée dominante autour du jeu est plus façonnée par les passionnés qui font attention à chaque aspect que par les téléspectateurs occasionnels qui se rallient bien plus volontiers au point de vue proposé par la production. Et bien sûr, en tant que fan, si vous êtes un minimum anglophone, c'est très intéressant d'avoir autant de contenu sous la main pour approfondir la saison, en entendant autant parler de ce qu'on ne voit pas à l'antenne pour mieux comprendre la saison, et bien entendu d'avoir autant de passionnés pour discuter des anciennes saisons si vous décidez à vous pencher sur elles. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est tout con, mais regardez Survivor, ça vous aide aussi à mieux comprendre Koh-Lanta. Plancaster va vous parler dans quelques minutes des différences entre Survivor et Koh-Lanta, mais il ne faut pas oublier que les deux shows se ressemblent énormément, car au fond, on est à chaque fois dans un jeu se disputant dans un contexte rendant survie complexe, parsemé d'épreuves de confort et d'immunité, durant laquelle la majorité des éliminations se fait par le moyen du vote. C'est normal, les deux jeux sont dérivés du même format, comme l'a évoqué Damien en début de podcast. On a donc deux formats quasi similaires en termes de mécanique centrale de jeu. Mais aussi, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, deux visions totalement différentes portées par la production des deux shows. Survivor a un montage centré sur la stratégie, sauf lors des toutes premières saisons, alors que Koh-Lanta a un montage centré sur la survie et la compétition sportive. Le social étant le grand absent dans les deux cas, car c'est à la fois peu télégénique et difficile à percevoir sur une durée aussi courte qu'un épisode, mais là n'est pas le sujet. Avec des aspects différents du jeu valorisé, Survivor et Koh-Lanta sont en fait très complémentaires dans le fond, puisqu'en regardant un, vous voyez l'aspect négligé dans l'autre. C'est ce que je dis en incitant les fans de Koh-Lanta à jeter un œil à Survivor, s'applique tout autant à la situation inverse. Beaucoup de fans de Survivor devraient jeter un œil à Koh-Lanta pour mieux comprendre les exigences du format en termes de capacité physique et d'ingéniosité dans la survie. En regardant Survivor en tant qu'adepte habituel de Koh-Lanta, on comprend toutes les possibilités stratégiques offertes par le format, ce qui a un double avantage. D'abord, puisqu'en écoutant un message plus pro-stratégie que celui porté par la production de Koh-Lanta, on se met plus facilement à accepter des profils de joueurs qui misent essentiellement sur la stratégie. Par exemple, Ahmad cette saison. Puisque, en regardant Survivor, on voit qu'un jeu orienté stratégie est tout à fait acceptable dans le concept. Cela permet également de mieux comprendre les stratégies dans Koh-Lanta lui-même, puisqu'elles sont parfois dissimulées par la production qui préfère laisser plus de temps pour les autres versants du jeu. En effet, en découvrant la palette stratégique du concept, on prend l'habitude des stratégies, on détecte bien plus facilement celles-ci, même avec peu d'éléments. L'exemple le plus simple, c'est les divisions de voix anti-colliers qui existent dans Koh-Lanta, mais qui ne sont que rarement soulignées par la production en tant que telle. Quand on a l'habitude de Survivor, on comprend bien vite ce qu'ont voulu faire les candidats, quand on n'en a pas l'habitude, bah, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense que, en tant que fan de Koh-Lanta, vous devriez jeter un œil à Survivor.
Merci à toi, Gino. Alors, merci pour cette ouverture sur Koh-Lanta. Et c'est vrai que, comme tu l'as mentionné, Koh-Lanta et Survivor sont évidemment complémentaires. Mais moi, je vais essayer de m'atteler un petit peu sur les différences qui existent entre ces programmes-là. Alors, je vais reprendre des points que tu as mentionnés un petit peu, et après j'irai en les prolongeant, et après j'irai chercher des points que tu n'as pas forcément mentionnés, mais que je vais traiter avec rigueur et neutralité absolue. Alors, et évidemment, étant donné que nous sommes fans de Survivor, la neutralité n'existe déjà pas, mais nous pouvons être influencés, mais c'est pour ça qu'on essaye au maximum de ne pas juger. Voilà, je tenais à le souligner, je tiens à le souligner encore. Comme l'a dit Gino, ce sont des franchises, des émissions qui sont complémentaires, c'est-à-dire que l'une permet de mieux comprendre l'autre. Par exemple, Koh-Lanta, on va passer plus de temps à regarder un combat épique dans une épreuve, donc le sport, qui est un S, pas forcément le plus important dans le jeu, mais le plus mis en avant au montage, parce qu'on estime que c'est à travers les épreuves que l'audience se fait dans Koh-Lanta. Dans Survivor, on va plus penser que c'est la fin de chaque épisode, donc le conseil qui peut être la résultante d'un big move, donc la sortie d'un candidat inattendu, qui va créer tout le sel du jeu. Ce sont donc là, ici, deux visions assez franches et différentes. Donc, au long terme, les éliminations peuvent être importantes, mais peuvent être également fortement atténuées par un possible retour sur abandon. Dans Survivor, vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Voilà, donc, c'est une élimination a un impact beaucoup plus fort dans Survivor que dans Koh-Lanta. C'est une première différence. Gino l'a mentionné également, la forme. Il a mentionné le fait que la forme de Survivor est hyper stricte. Koh-Lanta possédait une forme assez stricte à l'époque. Quand ça a commencé, c'était court. C'était en fin d'après-midi. Ça, c'était pour la première saison. Avant de passer au prime time, où là, Koh-Lanta a commencé à déborder de plus en plus vers les heures sombres, vers des heures un peu plus proche de la nuit. Ça finissait vers 22h30, 22h même des fois. Maintenant, ça tend à terminer vers 23h, voire même plus en cas de gros épisodes comme la finale. Comme l'a dit Gino également, dans Survivor, pas de voix off. Dans Koh-Lanta, voix off très importante qui raconte l'histoire et qui donc peut-être empêche une compréhension par nous-mêmes des choses. Peut-être. Je dis bien peut-être. Sachant que on peut se poser la question de savoir est-ce que le présentateur nous influe ou pas. Déjà que le montage influe, est-ce que peut-être que la voix off nous permet d'avoir un esprit critique plus développé, ou est-ce qu'au contraire, la voix off va-t-elle dans le sens du montage et donc réduit encore plus la critique? Là, encore une fois, c'est à nous et c'est à vous d'avoir une opinion tranchée là-dessus. En tout cas, dans Survivor, il n'y a pas de voix off, seul le montage influence. Également, et ça c'est un point principal, c'est que Survivor possède des saisons qui ont toutes un thème défini et différent des autres saisons. C'est plus coloré, les équipes ont des noms dont on se souvient parce qu'on les met en avant à travers des thèmes différents les uns des autres. Comme vous le savez, dans Koh-Lanta, historiquement, nous avons eu les rouges, les jaunes, si bien qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe se fait appeler les rouges, les jaunes. Si bien qu'on ne se souvient plus des équipes en tant que telles, genre une équipe d'une saison en particulier, mais d'une couleur, et donc de joueurs historiques qui ont porté cette couleur. Si je vous dis le rouge, vous pensez à Claude. Si je vous dis le jaune, vous pensez à Teyura, par exemple. Voilà. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'autres couleurs, à part le bleu dans deux saisons, il n'y a pas suffisamment de... Enfin, il n'y a pas cette différence d'identité qu'on peut trouver dans Survivor, puisque les couleurs des équipes changent à chaque saison. Je dis bien à chaque saison. Même si récemment, on a souvent trouvé du orange et du violet, on remarque également des changements sur du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Également, on a eu du noir, on a eu du bleu, on a eu du violet. Enfin, on a eu vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel représentées comme couleurs d'équipe, avec également des noms qui changent et le nom du lieu qui est mis en avant, ce qui fait que toute cette identité-là se retrouve dans chaque saison, ce qui fait qu'on arrive à plus facilement différencier les saisons les unes des autres, ce qui peut créer également une culture fan un peu plus importante, puisque chaque fan va essayer de développer pourquoi est-ce qu'il préfère cette saison par rapport à une autre, alors que dans Koh-Lanta, les discussions de fans vont s'arrêter généralement autour soit des candidats illustres de ces deux couleurs rouge et jaune, soit sur des épreuves en particulier. Donc, ce côté fan qu'a déjà mentionné Gino est peut-être plus développé dans Survivor grâce à l'identité qui est donnée à chaque saison. Voilà. Également, on peut retrouver également cette identité à travers ce qu'on appelle les twists, donc les retournements de situation qui viennent pimenter le jeu, qui est monté comme une série, comme Ludovic l'a rappelé tout à l'heure, comme Gino l'a rappelé tout à l'heure, puisqu'il y a très souvent des retournements de situation qui diffèrent à chaque saison. Dans Koh-Lanta, c'est généralement deux équipes qui ne changent pas. Nous passons aux ambassadeurs, puis à la réunification. On a déjà eu quelques petites modifications, ça tend à bouger un petit peu, mais ça reste très strict sur ses fondations. Dans Survivor, on peut voir souvent, et c'est surtout le cas en ce moment, deux, trois, on a même déjà eu quatre équipes, voilà, des reconstitutions d'équipes. Alors, on en a déjà vu dans Koh-Lanta récemment, mais dans Survivor, c'est habituel depuis la... Enfin, habituel. C'est apparu depuis la saison 3, et c'est très souvent revenu. Nous pouvons voir également deux équipes aller au conseil, des fois en même temps, donc deux équipes qui sont soudées pour éliminer une personne, ou alors séparément les deux équipes qui éliminent chacune un candidat au conseil, et donc on fait deux épreuves d'immunité et un candidat de chaque équipe est immunisé. Ce qui permet un petit peu de rebalancer les cartes quand imaginez qu'une équipe perd tout, ça permet à l'autre équipe de perdre au moins un membre. Ça permet de redistribuer un petit peu les cartes. Ça, étant donné que le jeu Survivor est plus axé sur la stratégie, ça permet toujours de remettre en question les ordres établis. C'est, voilà. Ça rappelle donc l'accent sur la stratégie et peut-être un peu moins sur la survie, ce qui fait que dans Koh-Lanta, l'accent sur la survie et le sport fait qu'un esprit d'équipe se développe, ce qui tend à garder la même constitution d'équipe tout le temps. L'importance évidemment des avantages fait également partie de ces retournements de situation où rien n'est joué à l'avance. Survivor tend à ce que rien ne soit joué à l'avance. Koh-Lanta aussi, bien sûr, puisque ça dépend des candidats, mais Survivor disons, va vous inciter à bousculer l'ordre établi. Peut-être moins dans Koh-Lanta, mais ça évidemment, c'est qu'un avis. L'autre argument qu'on peut souligner, c'est le fait que Survivor présente du contenu hors saison à tout le monde. Généralement, c'est sur les plateformes, sur leur plateforme à eux, donc c'est du contenu payant, mais c'est du contenu qui alimente un petit peu la sphère des fans. Comme par exemple ce qu'on appelle le cast assessment. C'est la présentation du casting avec les opinions du présentateur. Jeff Probst annonce chaque candidat, dit ce qu'il pense des candidats avant que le jeu soit tourné, donc on va dire au jour zéro, quand les candidats débarquent tous et qu'on commence à préparer le jeu. Il y a eu les interviews des candidats qui sont faites. Jeff Probst arrive ensuite pardon, et dit « J'aime bien celui-là, je trouve qu'il a cet argument-là, cet argument-là, cet argument-là. J'ai du mal avec celui-là parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, parce qu'il a ça, néanmoins. » Enfin voilà, il donne ses avis sur tous les candidats, ce qui permet déjà, avant le jeu, de spéculer. Et c'est comme ça que ça attire les fans, puisque chaque fan va essayer de dire « Ok, lui, je pense que je vais bien l'aimer, elle, je pense que je vais l'adorer, lui, je vais le détester, elle, je vais la haïr. Enfin, » voilà, ce genre de comportement-là permet toujours de lancer la machine d'une nouvelle saison qui se prépare. Dans Koh-Lanta, c'est assez rare que l'on voit une présentation de candidat avant la saison. Ça a pu arriver récemment sur Twitter où la production donnait les profils Koh-Lanta des candidats avant la saison. C'est quand même très récent. Ce point-là des profils est également à prendre en compte puisque les profils qu'on nous présente dans Koh-Lanta sont des profils de gens qui ont été filmés dans la vraie vie, dans leur vie de tous les jours, à travers leur profession, avec leur famille, en soirée avec des amis, voilà. Dans Survivor, les interviews se font au début du jeu. Donc on est en mode jeu. On ne parle pas à la personne, on parle aux joueurs. Et c'est quelque chose de très important puisque ça accentue encore une fois le fait que le jeu est différent de la vie. Alors que dans Koh-Lanta, on va quand même montrer les personnes telles qu'elles sont en vrai. Ce qui fait que forcément, l'aspect stratégique est beaucoup moins développé puisqu'on attend à ce que les joueurs soient ce qu'ils sont en vrai. Voilà. Par conséquent, il est tout à fait compréhensible que des personnes qu'on montre dans la vie de tous les jours tendent à être ce qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Alors que lorsque vous montre les personnes sous le prisme d'un jeu, on va les attendre à ce qu'elles représentent leur vision du jeu. Voilà. Tout simplement. Ce sont tous ces paramètres-là qui font que si les deux programmes sont complémentaires, c'est parce qu'il y a des différences très franche que l'on peut limite tirer un trait entre et mettre d'un côté les points forts de Survivor et l'autre les points forts de Koh-Lanta, et se dire que si l'on veut comprendre toute la sphère du jeu qui est Survivor, de la franchise qui est Survivor, nous sommes des fans de Koh-Lanta, mais nous pensons qu'il faille consulter un petit peu Survivor pour peut-être avoir un avis un peu plus développé, un esprit critique plus construit sur cette franchise qu'on aime tous et qui est donc Survivor. Et c'est pareil, comme l'a dit Gino, si vous êtes fan de Survivor, allez jeter un coup d'œil à Koh-Lanta pour peut-être revoir votre point de vue sur Survivor, bien entendu. Une fois que, si jamais notre présentation de Survivor vous a convaincu, il suffit maintenant de chercher des saisons qui pourraient vous convaincre. Sachant qu'il y a eu 40 saisons de Survivor, oui, oui, 40 saisons de Survivor, puisque le jeu existe depuis 20 ans et qu'il y a 2 saisons par an, 20 x 2 égale 40. J'ai réussi mon épreuve de maths tout de même. Il y a des saisons que vous devez privilégier par rapport à d'autres, selon nous. Et ce petit guide va vous être présenté par Ornithomax, qui regarde Survivor depuis 2004 et qui donc a vu toutes ces saisons-là en direct et va pouvoir vous donner un avis beaucoup plus profond sur les saisons qu'il faut regarder. Je dirais pas impérativement, mais qu'il faut consulter en premier si vous voulez accrocher à Survivor. Max, c'est à toi.
Merci beaucoup, Blancaster. En fait, c'est sûr que mon but ici, c'est pas de vous spoiler et vous dire pour qui a gagné et qu'est-ce qui se passe, parce que ça perd un peu tout le charme de découvrir Survivor. Donc, je vais un peu vous exposer quelques saisons à regarder et vous dire pourquoi elles sont convaincantes ou pourquoi il faut les regarder, parce que j'imagine que les fans de Koh-Lanta aiment Koh-Lanta pour des raisons différentes, des raisons individuelles, et c'est la même chose pour Survivor. Donc, la façon que je vais fonctionner, c'est que je vais vous présenter une saison par peut-être décennie, par la saison 1 à 10, saison 10 à 20, et jusqu'à 40. Puis vous dire peut-être une saison qui est peut-être la plus représentative, la plus populaire dans cette dizaine-là. Et peut-être aussi une alternative si jamais ça ne vous convainc pas. Donc, je vais y aller par ordre chronologique et non pas en ordre de par quoi commencer. Donc, chronologiquement, dans la première décennie, ce serait peut-être la saison 7. La saison 7 qui s'appelle Survivor Pearl Island. Cette saison-là, en gros, le thème principal, c'est le thème des pirates. Donc, dès le début de la saison, tu vois les deux tribus qui sont dans la région du Panama, puis qui vont dans un village puis essayer d'acheter des choses pour que ce soit dans leur premier jour de camp. Donc, il y a vraiment, dès le début, un peu l'aspect de vol, un peu pirate. Tu sais, les noms de tribus sont liés à des pirates. Puis, tu sais, la thématique dans Survivor, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Puis, cette saison-là, parce qu'il y a deux aspects importants, c'est vraiment les personnages. Vraiment, il y a beaucoup de personnages cultes dans cette saison. On a vraiment trois que je pense en ce moment que c'est la saison 7, mais sont encore des légendes aujourd'hui à la saison 40. Donc, c'est vraiment des personnages marquants qui ont fait des événements marquants. Puis aussi, même si dans la première dizaine, c'est une saison assez stratégique. C'est pas on élimine toute une couleur, puis ça finit là, puis voilà, il n'y a pas de suspense. C'est vraiment des choses qui se passent, des choses intéressantes, des raisons, des personnes qui changent d'alliance pour une raison ou pour une autre. Fait que c'est assez dynamique, puis ça fait aussi beaucoup de drame à cause de ça, à cause que les personnes se sentent trahies pour une raison ou pour une autre. Puis c'est ça, c'est vraiment des saisons comme celles-là qui sont appréciées généralement par les fans, puis sont aussi reçues positivement par quelques fans de Koh-Lanta qui les ont regardées. Dans l'alternative, je dirais la saison 6 Amazon, qui, comme le dit, se passe dans la région d'Amazon, une des rares dans l'Amérique du Sud. En fait, le thème de saison-là, c'est homme contre femme. Donc, c'est vraiment pour la partie avant la fusion, la guerre des sexes. Fait que c'est toujours intéressant pour ceux qui s'intéressent peut-être un peu à la sociologie de voir un peu une tribu d'hommes ensemble, une tribu de femmes ensemble, voir un peu comment interagir. Puis ça, c'est une saison aussi comme qui a beaucoup de changements, surtout à cause d'un joueur. qui change d'un côté de l'autre. Je ne vous dirai pas qui parce que ça va vous spoiler. Donc, vraiment deux saisons assez excellentes. Puis, cette décennie-là aussi, de la saison 1 à 10, ce n'est pas des décennies qui n'ont pas beaucoup d'avantages. Ici, à part des, je vais dire en anglais, mais des swaps, des changements de tribus, il n'y a pas beaucoup de twists, de changements dans la méta. Donc, c'est vraiment des saisons un peu pures de la façon de voir Survivor. Donc, si c'est vraiment c'est ça qui vous intéresse, de la façon pure de voir les choses sans transchangement, sans vraiment de. Des fois qu'on a l'impression que la prod manipule. Ces deux saisons-là peuvent être très intéressantes. Puis c'est vraiment des saisons appréciées par la majorité des gens. Puis je vais peut-être un peu, personnellement, vous conseiller la saison 9. C'est la saison Vanuatu. Pourquoi je vous la conseille de façon égoïste? À cause de la première saison que j'ai moi-même regardée quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, en direct. Donc, c'est la saison que moi me convaincu et que je commence toutes mes amis avec cette saison-là. Puis j'ai beaucoup de succès quand même. Là. Il y a quand même quelques-uns de mes amis qui écoutent encore Survivor aujourd'hui. Vanuatu, comme la saison Amazon, c'est aussi une saison des hommes contre des femmes. Donc encore cette dynamique-là. Puis la tribu des femmes, personnellement, je la trouve vraiment intéressante pendant toute la saison. Puis vraiment, ceux qui veulent s'aventurer, c'est pas quelque chose que je conseille forcément, mais peut-être pour les curieux qui veulent vraiment voir les débuts, la saison 1 Bornéo. On vous dit pourquoi Survivor est comme il est aujourd'hui. Vraiment, la grosse raison, c'est à cause de la saison 1. C'est vraiment une saison qui est un peu étrange à regarder quand on connaît Konanta, quand on connaît Survivor, mais on a vraiment le feel, c'est les joueurs qui, c'est intéressant, c'est les joueurs qui découvrent le jeu puis qui le créent à leur manière. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, j'ai fini par ce décennie-là. J'arrive à la deuxième décennie de la saison 10 à 20. Donc, à partir de la saison 11 et 12, il y a l'arrivée des colliers d'immunité cachés. Donc, c'est vraiment un changement important dans la méthode Survivor à cause que ça provoque un peu plus de surprise parce que tu peux pas dire à la personne qu'il y a un collier qui part. Donc, c'est intéressant. Peut-être une des saisons la plus appréciée là-dedans, je vous dirais, c'est la saison 15. C'est la saison China, en Chine. Donc, les thèmes, comme vous voyez, c'est très oriental, c'est très chinois. C'est vraiment, ça commence par le livre... Guerre et paix, c'est ça, non, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est ce livre-là de la philosophie chinoise, de comment ça fonctionne la Chine, puis c'est vraiment une saison très orientale, t'as vraiment le feel, le feeling oriental, les émotions orientales, l'ambiance orientale, puis un peu comme les saisons précédentes, c'est vraiment une saison que, d'après moi, mélange bien l'aspect stratégique, puis l'aspect des personnages. Moi, pour moi, c'est deux choses qui distinguent Survivor, mais qui pour moi, me convainc qu'une saison de Survivor est bonne. C'est que la stratégie est intéressante, mais aussi que les personnages sont intéressants. Ce serait une stratégie de big move, comme on disait tantôt, mais avec des personnages pas attachants, c'est un peu ennuyant. Puis si des personnages attachants ou intéressants, mais il se passe rien, c'est un peu ennuyant aussi. Donc, vraiment, la saison Chine, elle mélange bien les deux. Vraiment des dynamiques entre les personnes très intéressantes. C'est vraiment, dans un guide que j'ai écouté, c'est vraiment la saison qui conseille eux autres pour débuter. S'il y aurait une saison à partir des 40 pour débuter, ce serait China. Puis, je suis d'accord avec eux parce que c'est une saison, peut-être pour les fans de Koh-Lanta, facile à écouter parce que c'était pas l'intensité ou la rapidité des saisons récentes. Mais quand même, il y a juste des colliers d'immunité cachés. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de complexité dans le jeu. Puis Koh-Lanta, vous êtes habitué avec les colliers aussi. Donc c'est vraiment une saison qui peut-être vous met peut-être un peu plus dans votre état d'esprit que vous êtes actuellement en écoutant Koh-Lanta. Et d'autres saisons que je vous dirais, ce serait une saison 12, Exile Island. Cette saison-là, pourquoi je vous la propose, c'est vraiment pour les personnages. Vraiment, la tribu Kasaya, c'est vraiment une légende. C'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant, de très drôle. à regarder. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être une saison peut-être plus liée sur les personnages, peut-être plus que la stratégie, la saison 12 est à conseiller. Je passe à la troisième décennie. Donc, là, ça commence un peu plus à se complexifier, Survivor. Là, c'est là il y a plus, un peu plus d'avantages, un peu plus de choses qui arrivent. Puis la saison, une des saisons les plus populaires sur ADF, autour du feu, c'est la saison 28 qui est Cagayan. Donc, peut-être vous avez vu récemment dans les streamers comme Kameto qui ont écouté cette saison-là. Donc, là, à la base, dès le premier épisode, Cagayan, c'est une saison qui te prend à gorge immédiatement, qui est vraiment intense dès le début. Dans le fond, la spécificité de Cagayan, c'est trois tribus. Donc, la tribu de force, Brown, versus la tribu Brain, cerveau, versus la tribu Beauty, beauté. Fait que c'est vraiment trois tribus au début. Et dans le fond, leur but, c'était un peu de dire c'est quoi la tribu le meilleur entre les trois pour Survivor. Si on peut dire survie, épreuve pour force, stratégie pour cerveau, puis beauté, personnellement, je relis ça peut-être à social. Fait qu'on voit un peu les 4 S dans ces trois tribus-là. Donc, vraiment, une saison intense, stratégiquement, encore une fois, intense, beaucoup de choses qui se passent, un cast très, 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 très dynamique, vraiment, qui mélange les deux aspects que j'aime de Survivor. Puis, un peu, selon moi, la raison, cette saison-là, c'est l'initiateur des Big Moves. Vraiment, une saison, comme je disais, intense, beaucoup de choses qui se passent. Vous ne découvrirez pas vous-même, je vous en dis pas plus. La prochaine saison, dans cette décennie-là, je vous conseille, c'est la saison 29 qui s'appelle Senua del Sur. Ça, c'est une saison, je sais pas pourquoi, mais qui est très populaire sur Autour du Feu ou d'autres forums comme Survivor ST, mais qu'aux États-Unis est un peu moins populaire. Ma théorie, c'est à cause qu'elle suit Cagayan, puis Cagayan était très populaire, mais c'est une saison vraiment, pour moi, très bonne à cause du casting aussi. Peut-être un peu moins de la stratégie, mais le casting est très intéressant. Puis la twist aussi est intéressante parce que c'est des gens qui jouent avec leurs proches. Par exemple, deux sœurs jumelles, son père et son garçon, deux copains, frères et sœurs, mère et fille, père et fille. Donc, il y a beaucoup de pères intéressantes. Fait que ça fait quelque chose une dynamique quand tu vois que tes décisions impactent ton proche qui est dans l'autre tribu. Fait que c'est assez intéressant. Et pour la dernière décennie, dans le fond, là, c'est la décennie vraiment que, encore une fois, les big moves, comme on disait, mais qu'il y a beaucoup, encore plus d'avantages, vraiment plus que peut-être dans la décennie précédente. Puis la saison vraiment qui est conseillée par tout le monde, c'est une saison qui s'appelle David vs. Goliath, qui reprend la légende, si on peut dire ça, le mythe de David et Goliath. Dans le fond, ceux des David qui ont commencé avec pas grand-chose dans la vie, peut-être des gens plus pauvres qui ont peut-être moins de chance versus des collègues qui ont peut-être une réputation, qui viennent peut-être une partie de riches, qui sont un peu plus, on peut dire, forts. Fait que c'est pas une saison que ceux qu'on peut-être peut percevoir comme faibles contre les forts, c'est une perception. C'est une saison vraiment appréciée par tout le monde, vraiment, encore une fois, un mélange entre la stratégie et le casting intéressant. Puis, une autre saison, deux saisons, en fait, que je vous conseillerais, c'est la saison 32, qui est Korang. Dans le fond, c'est encore une fois un peu la même twist que Cagayan, qui est Brain versus Brown versus Beauty, donc cerveau versus force versus beauté. Donc, saison assez intéressante, des événements intéressants. Quand même beaucoup de choses qui se passent dans cette saison-là. Encore un casting assez intéressant. Puis, c'est une saison que... Tout ça, c'est une saison assez appréciée aussi. Puis l'autre saison, ce serait la suivante, qui est Millennial versus Gen X. Dans le fond, les milléniaux versus les Gen X, donc les moins de 30 ans versus les plus de 40 ans, si je me souviens bien, à cette époque-là. Donc, c'est vraiment, leur but, c'est un peu d'explorer les jeunes contre les plus vieux. Donc, une saison, encore une fois, stratégiquement active, avec des alliances qui changent, un concept aux États-Unis qui s'appelle les voting blocks. Donc, les personnes, il n'y a pas des alliances, mais très mouvantes d'un conseil à la fois. Donc, si ça vous intéresse, ces saisons-là, je vous les conseille. Donc, je fais un résumé. Si vous êtes les personnes qui aimaient plus le Koh-Lanta, peut-être la simplicité, qui ne veut pas peut-être plus se compliquer avec beaucoup d'avantages, je vous conseillerais peut-être plus les saisons 7 et 15. Mais si c'est vraiment c'est la stratégie, puis vraiment c'est ça qui vous intéresse, peut-être je vous conseillerais peut-être plus les saisons 28 et 37. Donc, ce serait tout pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne écoute de Survivor. Puis on attend vos rétroactions sur Autour du feu. C'est vraiment intéressant pour nous de lire des personnes qui écoutent Survivor pour la première fois.
Merci Max. En espérant que ce guide d'une dizaine de saisons de Survivor à regarder va vous inciter à regarder Survivor. On espère que la présentation du jeu par Damien va également vous inciter à regarder Survivor. J'espère que la présentation du jeu par Gino vous intéresse et vous donne envie de regarder par vous-même ce que Gino vient de vous dire. J'espère que ma comparaison avec Koh-Lanta vous incite également à vous faire votre opinion par vous-même sur ce programme. En tout cas, on espère que toutes nos informations vont vous donner envie de regarder Survivor. Et si oui, bienvenue dans la communauté de fans de Survivor. On l'espère pour très longtemps. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était ADF. Salut.
Salut.
Bye bye.